Le rouge et le noir, chapitre 13. Les bas à jour. Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin. Saint-Réal. Quand Julien aperçut les ruines pittoresques de l'ancienne église de Vergy, il remarqua que, depuis l'avant-veille, il n'avait pas pensé une seule fois à Madame de Rênal. L'autre jour, en partant, cette femme m'a rappelé la distance infinie qui nous sépare. Elle m'a traité comme le fils d'un ouvrier. Sans doute, elle a voulu me marquer son repentir de m'avoir laissé sa main la veille. Elle est pourtant bien jolie, cette main. Quel charme! Quelle noblesse dans les regards de cette femme! La possibilité de faire fortune avec Fouquet donnait une certaine facilité au raisonnement de Julien. Il n'était plus aussi souvent gâté par l'irritation et le sentiment vif de sa pauvreté et de sa bassesse aux yeux du monde. Placé comme sur un promontoire élevé, il pouvait juger et dominer, pour ainsi dire, l'extrême pauvreté et l'aisance qu'il appelait encore richesse. Il était loin de juger sa position en philosophe, mais il eut assez de clairvoyance pour se sentir différent après ce petit voyage dans la montagne. Il fut frappé du trouble extrême avec lequel Madame de Rênal écouta le petit récit de son voyage qu'elle lui avait demandé. Fouquet avait eu des projets de mariage, des amours malheureuses. De longues confidences à ce sujet avaient rempli les conversations des deux amis. Après avoir trouvé le bonheur trop tôt, Fouquet s'était aperçu qu'il n'était pas seul aimé. Tous ces récits avaient étonné Julien. Il avait appris bien des choses nouvelles. Sa vie solitaire, toute d'imagination et de méfiance, l'avait éloigné de tout ce qui pouvait l'éclairer. Pendant son absence, la vie n'avait été pour Madame de Rênal qu'une suite de supplices différents, mais tous intolérables. Elle était réellement malade. « Surtout, lui dit Madame Derville, lorsqu'elle vit arriver Julien, indisposé comme tu l'es, tu n'iras pas ce soir au jardin. L'air humide redoublerait ton malaise. » Madame Derville voyait avec étonnement que son amie, toujours grondée par M. de Rênal à cause de l'excessive simplicité de sa toilette, venait de prendre des bas à jour et de charmants petits souliers arrivés de Paris. Depuis 3 jours, la seule distraction de Madame de Rênal avait été de tailler et de faire faire en toute hâte par Élisa une robe d'été d'une jolie petite étoffe fort à la mode. À peine cette robe put-elle être terminée, quelques instants après l'arrivée de Julien, Madame de Rênal la mit aussitôt. Son amie n'eut plus de doute. « Elle aime l'infortunée !» se dit Madame Derville. Elle comprit toutes les apparences singulières de sa maladie. Elle la vit parler à Julien. La pâleur succédait à la rougeur la plus vive. L'anxiété se peignait dans ses yeux, attachés sur ceux du jeune précepteur. Madame de Rênal s'attendait à chaque moment qu'il allait s'expliquer et annoncer qu'il quittait la maison ou y restait. Julien n'avait garde de rien dire sur ce sujet, auquel il ne songeait pas. Après des combats affreux, Madame de Rênal osa enfin lui dire, d'une voix tremblante, et où se peignait toute sa passion. « Quitterez-vous vos élèves pour vous placer ailleurs ?» Julien fut frappé de la voix incertaine et du regard de Madame de Rênal. « Cette femme-là, même ?» se dit-il. Mais après ce moment passager de faiblesse que se reproche son orgueil, et dès qu'elle ne craindra plus mon départ, elle reprendra sa fierté. Cette vue de la position respective fut chez Julien rapide comme l'éclair. Il répondit, en hésitant, « J'aurai beaucoup de peine à quitter des enfants si aimables et si bien nés. Mais peut-être le faudra-t-il. On a aussi des devoirs envers soi. » En prononçant la parole « si bien né », et c'était un de ces mots aristocratiques que Julien avait appris depuis peu. Il s'anima d'un profond sentiment d'antipathie. Aux yeux de cette femme, moi, se disait-il, je ne suis pas bien né. Madame de Rênal, en l'écoutant, admirait son génie, sa beauté. Elle avait le cœur percé de la possibilité de départ qu'il lui faisait entrevoir. Tous ses amis de Verrières, qui, pendant l'absence de Julien, étaient venus dîner à Vergy, lui avaient fait compliment, comme à l'envi, sur l'homme étonnant que son mari avait eu le bonheur de déterrer. Ce n'est pas que l'on comprît rien au progrès des enfants. L'action de savoir par cœur la Bible, et encore en latin, avait frappé les habitants de Verrières d'une admiration qui durera peut-être un siècle. Julien, ne parlant à personne, ignorait tout cela. Si Madame de Rênal avait eu le moindre sang-froid, elle lui eût fait compliment de la réputation qu'il avait conquise, et l'orgueil de Julien rassuré, il eût été pour elle doux et aimable, d'autant plus que la robe nouvelle lui semblait charmante. Madame de Rênal, contente aussi de sa jolie robe et de ce que lui en disait Julien, avait voulu faire un tour de jardin. Bientôt elle avoua qu'elle était hors d'état de marcher. Elle avait pris le bras du voyageur, et bien loin d'augmenter ses forces, le contact de ce bras les lui ôtait tout à fait. Il était nuit. À peine fut-on assis, que Julien, usant de son ancien privilège, osa approcher les lèvres du bras de sa jolie voisine et lui prendre la main. Il pensait à la hardiesse dont Fouquet avait fait preuve avec ses maîtresses, et non à Madame de Rênal. Le mot « bien-né » pesait encore sur son cœur. On lui serra la main, ce qui ne lui fit aucun plaisir. Loin d'être fier, ou du moins reconnaissant du sentiment que Madame de Rênal trahissait ce soir-là par des signes trop évidents. La beauté, l'élégance, la fraîcheur le trouvèrent presque insensible. La pureté de l'âme, l'absence de toute émotion haineuse, prolonge sans doute la durée de la jeunesse. C'est la physionomie qui vieillit la première chez la plupart des jolies femmes. Julien fut maussade toute la journée. Jusqu'ici, il n'avait été en colère qu'avec le hasard et la société. Depuis que Fouquet lui avait offert un moyen ignoble d'arriver à l'aisance, il avait de l'humeur contre lui-même. Tout à ses pensées, quoique de temps en temps il dit quelques mots à ces dames, Julien finit, sans s'en apercevoir, par abandonner la main de Madame de Rênal. Cette action bouleversa l'âme de cette pauvre femme. Elle y vit la manifestation de son sort. Certaine de l'affection de Julien, peut-être sa vertu eût trouvé des forces contre lui. Tremblante de le perdre à jamais, sa passion l'égara jusqu'au point de reprendre la main de Julien, que, dans sa distraction, il avait laissé appuyer sur le dossier d'une chaise. Cette action réveilla ce jeune ambitieux. Il eût voulu qu'elle eût pour témoin tous ces nobles si fiers qui, à table, lorsqu'il était au bas bout avec les enfants, le regardaient avec un sourire si protecteur. « Cette femme ne peut plus me mépriser. »« Dans ce cas, se dit-il, je dois être sensible à sa beauté. Je me dois à moi-même d'être son amant. » Une telle idée ne lui fut pas venue avant les confidences naïves faites par son ami. La détermination subite qu'il venait de prendre forma une distraction agréable. Il se disait « Il faut que j'aie une de ces deux femmes ». Il s'aperçut qu'il aurait beaucoup mieux aimé faire la cour à Madame Derville. Ce n'est pas qu'elle fût plus agréable, mais toujours elle l'avait vu précepteur honoré pour sa science, et non pas ouvrier charpentier avec une veste de rapine pliée sous le bras, comme il était apparu à Madame de Rênal. C'était précisément comme jeune ouvrier, rougissant jusqu'au blanc des yeux, arrêté à la porte de la maison et n'osant sonner, que Madame de Rênal se le figurait avec le plus de charme. En poursuivant la revue de sa position, Julien vit qu'il ne fallait pas songer à la conquête de Madame Derville, qui s'apercevait probablement du goût que Madame de Rênal montrait pour lui. Forcé de revenir à celle-ci, « Que connais-je du caractère de cette femme ?» se dit Julien. « Seulement ceci. Avant mon voyage, je lui prenais la main, elle la retirait. Aujourd'hui, je retire ma main, elle la saisit et la serre. Belle occasion de lui rendre tous les mépris qu'elle a eus pour moi. Dieu sait combien elle a eu d'amants. Elle ne se décide peut-être en ma faveur qu'à cause de la facilité des entrevues. » Tel est, hélas, le malheur d'une excessive civilisation. À 20 ans, l'âme d'un jeune homme, s'il a quelque éducation, est à 1000 lieues du laisser-aller, sans lequel l'amour n'est souvent que le plus ennuyeux des devoirs. « Je me dois d'autant plus, » continua la petite vanité de Julien, « de réussir auprès de cette femme, que si jamais je fais fortune, et que quelqu'un me reproche le bas emploi de précepteur, je pourrais faire entendre que l'amour m'avait jeté à cette place. » Julien éloigna de nouveau sa main de celle de Madame de Rênal, puis il la reprit en la serrant. Comme on rentrait au salon, vers minuit, Madame de Rênal lui dit à demi-voix « Vous nous quitterez? Vous partirez ?» Julien répondit en soupirant « Il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion. C'est une faute, et quelle faute pour un jeune prêtre !» Madame de Rênal s'appuya sur son bras, et avec tant d'abandon que sa joue sentit la chaleur de celle de Julien. Les nuits de ces deux êtres furent bien différentes. Madame de Rênal était exaltée par les transports de la volupté morale la plus élevée. Une jeune fille coquette qui aime de bonne heure s'accoutume aux troubles de l'amour. Quand elle arrive à l'âge de la vraie passion, le charme de la nouveauté manque. Comme Madame de Rênal n'avait jamais lu de roman, toutes les nuances de son bonheur étaient neuves pour elle. Aucune triste vérité ne venait la glacer, pas même le spectre de l'avenir. Elle se vit aussi heureuse dans 10 ans qu'elle l'était en ce moment. L'idée même de la vertu et de la fidélité jurée à Monsieur de Rênal, qui l'avait agitée quelques jours auparavant, se présenta en vain. On la renvoya comme un hôte importun. « Jamais je n'accorderai rien à Julien, » se dit Madame de Rênal. Nous vivrons à l'avenir comme nous vivons depuis un mois. Ce sera un ami. » Chapitre 14. Les ciseaux anglais. Une jeune fille de 16 ans avait un teint de rose et elle mettait du rouge. Polidori. Pour Julien, l'offre de Fouquet lui avait en effet enlevé tout bonheur. Il ne pouvait s'arrêter à aucun parti. « Hélas, peut-être manquais-je de caractère. J'eusse été un mauvais soldat de Napoléon. » « Du moins, » ajouta-t-il, « ma petite intrigue avec la maîtresse du logis va me distraire un moment. » Heureusement pour lui, même dans ce petit incident subalterne, l'intérieur de son âme répondait mal à son langage cavalier. Il avait peur de Madame de Rênal à cause de sa robe si jolie. Cette robe était à ses yeux l'avant-garde de Paris. Son orgueil ne voulut rien laisser au hasard et à l'inspiration du moment. D'après les confidences de Fouquet et le peu qu'il avait lu sur l'amour dans sa Bible, il se fit un plan de campagne fort détaillé. Comme sans se l'avouer, il était fort troublé. Il écrivit ce plan. Le lendemain matin, au salon, Madame de Rênal fut un instant seule avec lui. « N'avez-vous point d'autre nom que Julien ?» lui dit-elle. À cette demande si flatteuse, notre héros ne sut que répondre. Cette circonstance n'était pas prévue dans son plan. Sans cette sottise de faire un plan, l'esprit vif de Julien l'eût bien servi. La surprise n'eût fait qu'ajouter à la vivacité de ses aperçus. Il fut gauche et s'exagéra sa gaucherie. Madame de Rênal la lui pardonna bien vite. Elle y vit l'effet d'une candeur charmante. Et ce qui manquait précisément à ses yeux, à cet homme, auquel on trouvait tant de génie, c'était l'air de la candeur. « Ton petit précepteur m'inspire beaucoup de méfiance, » lui disait quelquefois Madame Derville. « Je lui trouve l'air de penser toujours et de n'agir qu'avec politique. C'est un sournois. » Julien resta profondément humilié du malheur de n'avoir su que répondre à Madame de Rênal. « Un homme comme moi se doit de réparer cet échec. » Et saisissant le moment où l'on passait d'une pièce à l'autre, il crut de son devoir de donner un baiser à Madame de Rênal. Rien de moins amené, rien de moins agréable, et pour lui et pour elle. Rien de plus imprudent. Ils furent sur le point d'être aperçus. Madame de Rênal le crut fou. Elle fut effrayée et surtout choquée. Cette sottise lui rappela Monsieur Valenod. « Que m'arriverait-il ? » se dit-elle, « si j'étais seule avec lui ?» Toute sa vertu revint, parce que l'amour s'éclipsait. Elle s'arrangea de façon à ce qu'un de ses enfants restât toujours auprès d'elle. La journée fut ennuyeuse pour Julien. Il la passa tout entière à exécuter avec gaucherie son plan de séduction. Il ne regarda pas une seule fois Madame de Rênal sans que ce regard n'eût un pourquoi. Cependant, il n'était pas assez sot pour ne pas voir qu'il ne réussissait point à être aimable, et encore moins séduisant. Madame de Rênal ne revenait point de son étonnement de le trouver si gauche et en même temps si hardi. C'est la timidité de l'amour dans un homme d'esprit, se dit-elle enfin avec une joie inexprimable. Serait-il possible qu'il n'eût jamais été aimé de ma rivale ? Après le déjeuner, Madame de Rênal rentra dans le salon pour recevoir la visite de Monsieur Charcot de Maugiron, le sous-préfet de Bray. Elle travaillait à un petit métier de tapisserie fort élevé. Madame Derville était à ses côtés. Ce fut dans une telle position, et par le plus grand jour, que notre héros trouva convenable d'avancer sa botte et de presser le joli pied de Madame de Rênal, dont le bas à jour et le joli soulier de Paris attiraient évidemment les regards du galant sous-préfet. Madame de Rênal eut une peur extrême. Elle laissa tomber ses ciseaux. Son peloton de laine, ses aiguilles, et le mouvement du Julien put passer pour une tentative gauche destinée à empêcher la chute des ciseaux qu'il avait vus glisser. Heureusement, ses petits ciseaux d'acier anglais se brisèrent et Madame de Rênal ne tarit pas en regret de ce que Julien ne s'était pas trouvé plus près d'elle. « Vous avez aperçu la chute avant moi, vous l'eussiez empêchée. Au lieu de cela, votre zèle n'a réussi qu'à me donner un fort grand coup de pied. » Tout cela trompa le sous-préfet, mais non Madame Derville. « Ce joli garçon a de bien sottes manières, » pensa-t-elle. « Le savoir-vivre d'une capitale de province ne pardonne point ces sortes de fautes. » Madame de Rênal trouva le moment de dire à Julien « Soyez prudent, je vous l'ordonne. » Julien voyait sa gaucherie. Il avait de l'humeur. Il délibéra longtemps avec lui-même pour savoir s'il devait se fâcher de ce mot « Je vous l'ordonne. » Il fut assez sot pour penser « Elle pourrait me dire « Je l'ordonne » s'il s'agissait de quelque chose de relatif à l'éducation des enfants. Mais en répondant à mon amour, elle suppose l'égalité. On ne peut aimer sans égalité. Et tout son esprit se perdit à faire des lieux communs sur l'égalité. Il se répétait avec colère ce vers de Corneille que Madame de Derville lui avait appris quelques jours auparavant. L'amour fait les égalités et ne les cherche pas. Julien, s'obstinant à jouer le rôle d'un don Juan, lui qui de la vie n'avait eu de maîtresse, il fut sot à mourir toute la journée. Il n'eut qu'une idée juste. Ennuyé de lui et de madame de Rênal, il voyait avec effroi s'avancer la soirée où il serait assis au jardin, à côté d'elle et dans l'obscurité. Il dit à monsieur de Rênal qu'il allait à Verrières voir le curé. Il partit après dîner et ne rentra que dans la nuit. À Verrières, Julien trouva monsieur Chélan occupé à déménager. Il venait enfin d'être destitué. Le vicaire Maslon le remplaçait. Julien aida le bon curé et il eut l'idée d'écrire à Fouquet que la vocation irrésistible qu'il se sentait pour le saint ministère l'avait empêché d'accepter d'abord ses offres obligeantes, mais qu'il venait de voir un tel exemple d'injustice que peut-être il serait plus avantageux à son salut de ne pas entrer dans les ordres sacrés. Julien s'applaudit de sa finesse à tirer parti de la destitution du curé de Verrières, pour se laisser une porte ouverte et revenir au commerce, si dans son esprit la triste prudence l'emportait sur l'héroïsme. Chapitre 15. Le chant du coq. Amour en latin fait amor. Or donc provient d'amour la mort. Et par avant, soulci qui mord, deuil, plour, piège, forfait, remords. Blason d'amour. Si Julien avait eu un peu de l'adresse qu'il se supposait si gratuitement, il eût pu s'applaudir le lendemain de l'effet produit par son voyage à Verrières. Son absence avait fait oublier ses gaucheries. Ce jour-là encore, il fut assez maussade. Sur le soir, une idée ridicule lui vint, et il la communiqua à madame de Rênal avec une rare intrépidité. À peine fut-on assis au jardin, que sans attendre une obscurité suffisante, Julien approcha sa bouche de l'oreille de madame de Rênal et, au risque de la compromettre horriblement, il lui dit « Madame, cette nuit à 2 heures, j'irai dans votre chambre. Je dois vous dire quelque chose. » Julien tremblait que sa demande ne fût accordée. Son rôle de séducteur lui pesait si horriblement que s'il eût pu suivre son penchant, il se fût retiré dans sa chambre pour plusieurs jours et n'eût plus vu ses dames. Il comprenait que par sa conduite savante de la veille, il avait gâté toutes les belles apparences du jour précédent et ne savait réellement à quel saint se vouer. Madame de Rênal répondit avec une indignation réelle et nullement exagérée à l'annonce impertinente que Julien osait lui faire. Il crut voir du mépris dans sa courte réponse. Il est sûr que dans cette réponse, prononcée fort bas, le mot « fi donc » avait paru. Sous prétexte de quelque chose à dire aux enfants, Julien alla dans leur chambre, et à son retour, il se plaça à côté de madame d'Herville et fort loin de madame de Rênal. Il sauta ainsi toute possibilité de lui prendre la main. La conversation fut sérieuse et Julien s'en tira fort bien, à quelques moments de silence près, pendant lesquels il se creusait la cervelle. « Que ne puis-je inventer quelque belle manœuvre, se disait-il, pour forcer madame de Rênal à me rendre ces marques de tendresse non équivoques qui me faisaient croire il y a 3 jours qu'elle était à moi. » Julien était extrêmement déconcerté de l'état presque désespéré où il avait mis ses affaires. Rien cependant ne l'eût plus embarrassé que le succès. Lorsqu'on se sépara, à minuit, son pessimisme lui fit croire qu'il jouissait du mépris de madame d'Herville et que probablement il n'était guère mieux avec madame de Rênal. De fort mauvaise humeur et très humilié, Julien ne dormit point. Il était à 1000 lieues de l'idée de renoncer à toute feinte, à tout projet, et de vivre au jour le jour avec madame de Rênal, en se contentant, comme un enfant, du bonheur qu'apporterait chaque journée. Il se fatigua le cerveau à inventer des manœuvres savantes. Un instant après, il les trouvait absurdes. Il était, en un mot, fort malheureux, quand 2 heures sonnèrent à l'horloge du château. Ce bruit le réveilla comme le chant du coq réveilla Saint-Pierre. Il se vit au moment de l'événement le plus pénible. Il n'avait plus songé à sa proposition impertinente depuis le moment où il l'avait faite. Elle avait été si mal reçue. « Je lui ai dit que j'irais chez elle à 2 heures, » se dit-il en se levant. « Je puis être inexpérimenté et grossier, comme il appartient au fils d'un paysan. Madame Derville me l'a fait assez entendre, mais du moins je ne serai pas faible. » Julien avait raison de s'applaudir de son courage. Jamais il ne s'était imposé une contrainte plus pénible. En ouvrant sa porte, il était tellement tremblant que ses genoux se dérobaient sous lui, et il fut forcé de s'appuyer contre le mur. Il était sans souliers. Il alla écouter à la porte de Monsieur de Rênal, dont il put distinguer le ronflement. Il en fut désolé. Il n'y avait donc plus de prétexte pour ne pas aller chez elle. Mais, grand Dieu, qui ferait-il? Il n'avait aucun projet, et quand il en aurait eu, il se sentait tellement troublé qu'il eût été hors d'état de les suivre. Enfin, souffrant plus 1000 fois que s'il eût marché à la mort, il entra dans le corridor qui menait à la chambre de Madame de Rênal. Il ouvrit la porte d'une main tremblante et en faisant un bruit effroyable. Il y avait de la lumière. Une veilleuse brûlait sous la cheminée. Il ne s'attendait pas à ce nouveau malheur. En le voyant entrer, Madame de Rênal se jeta vivement hors de son lit. « Malheureux ! » s'écria-t-elle. Il y eut un peu de désordre. Julien oublia ses 20 projets et revint à son rôle naturel. Ne pas plaire à une femme si charmante lui parut le plus grand des malheurs. Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds, en embrassant ses genoux. Comme elle lui parlait avec une extrême dureté, il fondit en larmes. Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Madame de Rênal, on eût pu dire, en style de roman, qu'il n'avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l'amour qu'il avait inspiré et à l'impression imprévue qu'avaient produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l'eût pas conduit toute son adresse si maladroite. Mais, dans les moments les plus doux, victime d'un orgueil bizarre, il prétendit encore jouer le rôle d'un homme accoutumé à subjuguer des femmes. Il fit des efforts d'attention incroyables pour gâter ce qu'il avait d'aimable. Au lieu d'être attentif aux transports qu'il faisait naître et aux remords qui en relevaient la vivacité, l'idée du « devoir » ne cessa jamais d'être présente à ses yeux. Il craignait un remords affreux et un ridicule éternel s'il s'écartait du modèle idéal qu'il se proposait de suivre. En un mot, ce qui faisait de Julien un être supérieur fut précisément ce qui l'empêcha de goûter le bonheur qui se plaçait sous ses pas. C'est une jeune fille de 16 ans qui a des couleurs charmantes et qui, pour aller au bal, a la folie de mettre du rouge. Mortellement effrayée de l'apparition de Julien, Madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes. Les pleurs et le désespoir de Julien la troublaient vivement. Même quand elle n'eut plus rien à lui refuser, elle repoussait Julien loin d'elle avec une indignation réelle et ensuite se jetait dans ses bras. Aucun projet ne paraissait dans toute cette conduite. Elle se croyait damnée sans rémission et cherchait à se cacher la vue de l'enfer en accablant Julien des plus vives caresses. En un mot, rien n'eût manqué au bonheur de notre héros, pas même une sensibilité brûlante dans la femme qu'il venait d'enlever, s'il eût su en jouir. Le départ de Julien ne fit point cesser les transports qui l'agitaient malgré elle et ses combats avec les remords qui la déchiraient. « Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça ? » Telle fut la première pensée de Julien en rentrant dans sa chambre. Il était dans cet état d'étonnement et de trouble inquiet où tombe l'âme qui vient d'obtenir ce qu'elle a longtemps désiré. Elle est habituée à désirer, ne trouve plus quoi désirer, et cependant n'a pas encore de souvenir. Comme le soldat qui revient de la parade, Julien fut attentivement occupé à repasser tous les détails de sa conduite. « N'ai-je manqué à rien de ce que je me dois à moi-même? Ai-je bien joué mon rôle? Et quel rôle? Celui d'un homme accoutumé à être brillant avec les femmes. » Chapitre 16. Le lendemain. Heureusement, pour la gloire de Julien, Madame de Rênal avait été trop agitée, trop étonnée, pour apercevoir la sottise de l'homme qui, en un moment, était devenu tout au monde pour elle. Comme elle l'engageait à se retirer, voyant poindre le jour, « Oh mon Dieu !» disait-elle, « si mon mari a entendu du bruit, je suis perdue !» Julien, qui avait le temps de faire des phrases, se souvint de celle-ci. « Regretteriez-vous la vie ?»«
Ah ! Beaucoup dans ce moment, mais je ne regretterai pas de vous avoir connue. »
Julien trouva de sa dignité de rentrer exprès au grand jour et avec imprudence. L'attention continue avec laquelle il étudiait ses moindres actions, dans la folle idée de paraître un homme d'expérience, n'eut qu'un avantage. Lorsqu'il revit Madame de Rênal à déjeuner, sa conduite fut un chef-d'œuvre de prudence. Pour elle, elle ne pouvait le regarder sans rougir jusqu'aux yeux, et ne pouvait vivre un instant sans le regarder. Elle s'apercevait de son trouble, et ses efforts pour le cacher le redoublaient. Julien ne leva qu'une seule fois les yeux sur elle. D'abord, Madame de Rênal admira sa prudence. Bientôt, voyant que cet unique regard ne se répétait pas, elle en fut alarmée. « Est-ce qu'il ne m'aimerait plus ?» se dit-elle. « Hélas, je suis bien vieille pour lui. J'ai 10 ans de plus que lui. » En passant de la salle à manger au jardin, elle serra la main de Julien. Dans la surprise que lui causa une marque d'amour si extraordinaire, il la regarda avec passion, car elle lui avait semblé bien jolie au déjeuner. Et tout en baissant les yeux, il avait passé son temps à se détailler ses charmes. Ce regard consola Madame de Rênal. Il ne lui ôta pas toutes ses inquiétudes, mais ses inquiétudes lui ôtaient presque tout à fait ses remords envers son mari. Au déjeuner, ce mari ne s'était aperçu de rien. Il n'en était pas de même de Madame Derville. Elle crut Madame de Rênal sur le point de succomber. Pendant toute la journée, son amitié hardie et incisive ne lui épargna pas les demi-mots destinés à lui peindre, sous de hideuses couleurs, le danger qu'elle courait. Madame de Rênal brûlait de se trouver seule avec Julien. Elle voulait lui demander s'il l'aimait encore. Malgré la douceur inaltérable de son caractère, elle fut plusieurs fois sur le point de faire entendre à son amie combien elle était importune. Le soir, au jardin, Madame Derville arrangea si bien les choses qu'elle se trouva placée entre Madame de Rênal et Julien. Madame de Rênal, qui s'était fait une image délicieuse du plaisir de serrer la main de Julien et de la porter à ses lèvres, ne put pas même lui adresser un mot. Ce contretemps augmenta son agitation. Elle était dévorée d'un remords. Elle avait tant grondé Julien de l'imprudence qu'il avait faite en venant chez elle la nuit précédente, qu'elle tremblait qu'il ne vînt pas celle-ci. Elle quitta le jardin de bonne heure et alla s'établir dans sa chambre. Mais, ne tenant pas à son impatience, elle vint coller son oreille contre la porte de Julien. Malgré l'incertitude et la passion qui la dévoraient, elle n'osa point entrer. Cette action lui semblait la dernière des bassesses, car elle sert de texte à un dicton de province. Les domestiques n'étaient pas tous couchés. La prudence l'obligea enfin à revenir chez elle. 2 heures d'attente furent 2 siècles de tourments. Mais Julien était trop fidèle à ce qu'il appelait le devoir pour manquer à exécuter de point en point ce qu'il s'était prescrit. Comme 1 heure sonnait, il s'échappa doucement de sa chambre, s'assura que le maître de maison était profondément endormi et parut chez madame de Rênal. Ce jour-là, il trouva plus de bonheur auprès de son ami, car il songea moins constamment au rôle à jouer. Il eut des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Ce que madame de Rênal lui dit de son âge contribua à lui donner quelque assurance. « Hélas, j'ai 10 ans de plus que vous. Comment pouvez-vous m'aimer ?» lui répétait-elle sans projet et parce que cette idée l'opprimait. Julien ne concevait pas ce malheur, mais il vit qu'il était réel, et il oublia presque toute sa peur d'être ridicule. La sotte idée d'être regardé comme un amant subalterne à cause de sa naissance obscure disparut aussi. À mesure que les transports de Julien rassuraient sa timide maîtresse, elle reprenait un peu de bonheur et la faculté de juger son amant. Heureusement, il n'eut presque pas ce jour-là cet air emprunté qui avait fait du rendez-vous de la veille une victoire, mais non pas un plaisir. Si elle se fût aperçue de son attention à jouer un rôle, cette triste découverte lui eût à jamais enlevé tout bonheur. Elle n'y eût pu voir autre chose qu'un triste effet de la disproportion des âges. Quoique madame de Rênal n'eût jamais pensé aux théories de l'amour, la différence d'âge est, après celle de la fortune, un des grands lieux communs de la plaisanterie de province, toutes les fois qu'il est question d'amour. En peu de jours, Julien, rendu à toute l'ardeur de son âge, fut éperdument amoureux. « Il faut convenir, se disait-il, qu'elle a une bonté d'âme angélique, et il n'en est pas plus joli. » Il avait perdu presque tout à fait l'idée du rôle à jouer. Dans un moment d'abandon, il lui avoua même toutes ses inquiétudes. Cette confidence porta à son comble la passion qu'il inspirait. « Je n'ai donc point eu de rivale heureuse, se disait madame de Rênal avec délice. » Elle osa l'interroger sur le portrait auquel il mettait tant d'intérêt. Julien lui jura que c'était celui d'un homme. Quand il restait à madame de Rênal assez de sang-froid pour réfléchir, elle ne revenait pas de son étonnement qu'un tel bonheur existât, et que jamais elle ne s'en fût doutée. « Ah !» se disait-elle. « Si j'avais connu Julien il y a 10 ans, quand je pouvais encore passer pour jolie !» Julien était fort éloigné de ses pensées. Son amour était encore de l'ambition. C'était de la joie de posséder, lui, pauvre être si malheureux et si méprisé, une femme aussi noble et aussi belle. Ses actes d'adoration, ses transports à la vue des charmes de son amie, finirent par la rassurer un peu sur la différence d'âge. Si elle eût possédé un peu de ce savoir-vivre dont une femme de 30 ans jouit depuis longtemps dans les pays plus civilisés, elle eût frémi pour la durée d'un amour qui ne semblait vivre que de surprise et de ravissement d'amour-propre. Dans ces moments d'oubli d'ambition, Julien admirait avec transport jusqu'au chapeau, jusqu'aux robes de madame de Rênal. Il ne pouvait se rassasier du plaisir de sentir leur parfum. Il ouvrait son armoire de glace et restait des heures entières admirant la beauté et l'arrangement de tout ce qu'il y trouvait. Son ami, appuyé sur lui, le regardait. Lui regardait ses bijoux, ses chiffons, qui, la veille d'un mariage, emplissent une corbeille de noces. « J'aurais pu épouser un tel homme !» pensait quelquefois madame de Rênal. « Quelle âme de feu! Quelle vie ravissante avec lui !» Pour Julien, jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine. « Il est impossible, se disait-il, qu'à Paris on ait quelque chose de plus beau. » alors il ne trouvait point d'objection à son bonheur. Souvent, la sincère admiration et les transports de sa maîtresse lui faisaient oublier la vaine théorie qui l'avait rendue si compassée et presque si ridicule dans les premiers moments de cette liaison. Il y eut des moments où, malgré ses habitudes d'hypocrisie, il trouvait une douceur extrême à avouer à cette grande dame qu'il admirait son ignorance d'une foule de petits usages. Le rang de sa maîtresse semblait l'élever au-dessus de lui-même. Madame de Rênal, de son côté, trouvait la plus douce des voluptés morales à instruire ainsi, dans une foule de petites choses, ce jeune homme rempli de génie, et qui était regardé par tout le monde comme devant un jour aller si loin. Même le sous-préfet et M. Valenod ne pouvaient s'empêcher de l'admirer. Il lui en semblait moins sot. Quant à Mme Derville, elle était bien loin d'avoir à exprimer les mêmes sentiments. Désespérée de ce qu'elle croyait deviner, et voyant que les sages avis devenaient odieux à une femme qui, à la lettre, avait perdu la tête, elle quitta Vergy, sans donner une explication qu'on se garda de lui demander. Madame de Rênal en versa quelques larmes, et bientôt il lui sembla que sa félicité redoublait. Par ce départ, elle se trouvait presque toute la journée tête à tête avec son amant. Julien se livrait d'autant plus à la douce société de son ami que, toutes les fois qu'il était trop longtemps seul avec lui-même, la fatale proposition de Fouquet venait encore l'agiter. Dans les premiers jours de cette vie nouvelle, il y eut des moments où lui, qui n'avait jamais aimé, qui n'avait jamais été aimé de personne, trouvait un si délicieux plaisir à être sincère, qu'il était sur le point d'avouer à Madame de Rênal l'ambition qui jusqu'alors avait été l'essence même de son existence. Il eût voulu pouvoir la consulter sur l'étrange tentation que lui donnait la proposition de Fouquet. Mais un petit événement empêcha toute franchise. Chapitre 17. Le premier adjoint. Un soir, au coucher du soleil, assis auprès de son ami, au fond du verger, loin des importuns, il rêvait profondément. « Des moments si doux, pensait-il, dureront-ils toujours ?» Son âme était tout occupée à la difficulté de prendre un état. Il déplorait ce grand accès de malheur qui termine l'enfance et gâte les premières années de la jeunesse peu riche. « Ah ! S'écria-t-il, que Napoléon était bien l'homme envoyé de Dieu pour les jeunes Français ! Qui le remplacera ? Que feront sans lui les malheureux, même plus riches que moi, qui ont juste les quelques écus qu'il faut pour se procurer une bonne éducation, et pas assez d'argent pour acheter un homme à 20 ans et se pousser dans une carrière ? Quoi qu'on fasse, ajouta-t-il avec un profond soupir, ce souvenir fatal nous empêchera à jamais d'être heureux. Il vit tout à coup Madame de Rênal froncer le sourcil. Elle prit un air froid et dédaigneux. Cette façon de penser lui semblait convenir à un domestique. Élevé dans l'idée qu'elle était fort riche, il lui semblait chose convenue que Julien l'était aussi. Elle l'aimait 1000 fois plus que la vie et ne faisait aucun cas de l'argent. Julien était loin de deviner ses idées. Ce froncement du sourcil le rappela sur la terre. Il eut assez de présence d'esprit pour arranger sa phrase et faire entendre à la noble dame, assise si près de lui sur le banc de verdure, que les mots qu'il venait de répéter, il les avait entendus pendant son voyage chez son ami le marchand de bois. C'était le raisonnement des impies. « Eh bien, ne vous mêlez plus à ces gens-là !» dit Madame de Rênal, gardant encore un peu de cet air glacial qui, tout à coup, avait succédé à l'expression de la plus vive tendresse. Ce froncement de sourcil, ou plutôt le remords de son imprudence, fut le premier échec porté à l'illusion qui entraînait Julia. Il se dit « Elle est bonne et douce, son goût pour moi est vif, mais elle a été élevée dans le camp ennemi. Ils doivent surtout avoir peur de cette classe d'hommes de cœur qui, après une bonne éducation, n'a pas assez d'argent pour entrer dans une carrière. Que deviendraient-ils, ces nobles, s'il nous était donné de les combattre à armes égales? Moi, par exemple, maire de Verrières, bien intentionné, honnête homme, comme l'est au fond monsieur de Rênal, comme j'enlèverais le vicaire, monsieur Valenod et toutes leurs friponneries, comme la justice triompherait dans Verrières. Ce ne sont pas leurs talents qui me feraient obstacle. Ils tâtonnent sans cesse. Le bonheur de Julien fut ce jour-là sur le point de devenir durable. Il manqua à notre héros d'oser être sincère. Il fallait avoir le courage de livrer bataille, mais sur le champ. Madame de Rênal avait été étonnée du mot de Julien, parce que les hommes de sa société répétaient que le retour de Robespierre était surtout possible à cause de ces jeunes gens des basses classes trop bien élevés. L'air froid de Madame de Rênal dura assez longtemps et sembla marqué à Julien. C'est que la crainte de lui avoir dit indirectement une chose désagréable succéda à sa répugnance pour le mauvais propos. Ce malheur se réfléchit vivement dans ses traits si purs et si naïfs quand elle était heureuse et loin des ennuyeux. Julien n'osa plus rêver avec abandon. Plus calme et moins amoureux, il trouva qu'il était imprudent d'aller voir Madame de Rênal dans sa chambre. Il valait mieux qu'elle vînt chez lui. Si un domestique l'apercevait courant dans la maison, 20 prétextes différents pouvaient expliquer cette démarche. Mais cet arrangement avait aussi ses inconvénients. Julien avait reçu de Fouquet des livres que lui, élève en théologie, n'eût jamais pu demander à un libraire. Il n'osait les ouvrir que de nuit. Souvent, il eût été bien aise de n'être pas interrompu par une visite, dont l'attente, la veille encore de la petite scène du verger, l'eût mis hors d'état de lire. Il devait à Madame de Rênal de comprendre les livres d'une façon toute nouvelle. Il avait osé lui faire des questions sur une foule de petites choses, dont l'ignorance arrête tout court l'intelligence d'un jeune homme né hors de la société, quelque génie naturel qu'on veuille lui supposer. Cette éducation de l'amour, donnée par une femme extrêmement ignorante, fut un bonheur. Julien arriva directement à voir la société telle qu'elle est aujourd'hui. Son esprit ne fut point offusqué par le récit de ce qu'elle avait été autrefois, il y a 2000 ans, ou seulement il y a 60 ans, du temps de Voltaire et de Louis XV. À son inexprimable joie, un voile tomba de devant ses yeux. Il comprit enfin les choses qui se passaient à Verrières. Sur le premier plan, parurent des intrigues très compliquées, ourdies depuis 2 ans, auprès du préfet de Besançon. Elles étaient appuyées par des lettres venues de Paris et écrites par ce qu'il y a de plus illustre. Il s'agissait de faire de monsieur de Moirod, c'était l'homme le plus dévot du pays, le premier et non pas le second adjoint du maire de Verrières. Il avait pour concurrent un fabricant fort riche qu'il fallait absolument refouler à la place de second adjoint. Julien comprit enfin les demi-mots qu'il avait surpris quand la haute société du pays venait dîner chez monsieur de Rênal. Cette société privilégiée était profondément occupée de ce choix du premier adjoint, dont le reste de la ville, et surtout les libéraux, ne soupçonnaient pas même la possibilité. Ce qui en faisait l'importance, c'est qu'ainsi que chacun sait, le côté oriental de la grande rue de Verrières doit reculer de plus de 9 pieds, car cette rue est devenue route royale. Or, si monsieur de Moirod, qui avait 3 maisons dans le cas de reculer, parvenait à être premier adjoint et par la suite maire dans le cas où monsieur de Rênal serait nommé député, il fermerait les yeux et l'on pourrait faire, aux maisons qui avancent sur la voie publique, de petites réparations imperceptibles au moyen desquelles elle durerait 100 ans. Malgré la haute piété et la probité reconnue de M. de Moirod, on était sûr qu'il serait coulant, car il avait beaucoup d'enfants. Parmi les maisons qui devaient reculer, 9 appartenaient à tout ce qu'il y a de mieux dans Verrières. Aux yeux de Julien, cette intrigue était bien plus importante que l'histoire de la bataille de Fontenoy, dont il voyait le nom pour la première fois dans un des livres que Fouquet lui avait envoyés. Il y avait des choses qui étonnaient Julien depuis 5 ans qu'il avait commencé à aller les soirs chez le curé. Mais la discrétion et l'humilité d'esprit étant les premières qualités d'un élève en théologie, il lui avait toujours été impossible de faire des questions. Un jour, Madame de Rênal donnait un ordre au valet de chambre de son mari, l'ennemi de Julien. « Mais, madame, c'est aujourd'hui le dernier vendredi du mois !» répondit cet homme d'un air singulier. « Allez !» dit Madame de Rênal. « Eh bien, dit Julien, il va se rendre dans ce magasin à foin, église autrefois et récemment rendu au culte. Mais pourquoi faire? Voilà un de ces mystères que je n'ai jamais pu pénétrer. C'est une institution fort salutaire, mais bien singulière, répondit Madame de Rênal. Les femmes n'y sont point admises. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde s'y tutoie. Par exemple, ce domestique va y trouver M. Valneau, et cet homme si fier et si sot ne sera point fâché de s'entendre tutoyer par Saint-Jean et lui répondra sur le même ton. Si vous tenez à savoir ce qu'on y fait, je demanderai des détails à M. de Maugiron et à M. Valneau. Nous payons 20 francs par domestique afin qu'un jour il ne nous égorge pas. » Le temps volait. Le souvenir des charmes de sa maîtresse distrayait Julien de sa noire ambition. La nécessité de ne pas lui parler de choses tristes et raisonnables, puisqu'ils étaient de parti contraire, ajoutait, sans qu'il s'en doutât, au bonheur qu'il lui devait et à l'empire qu'elle acquérait sur lui. Dans les moments où la présence d'enfants trop intelligents les réduisait à ne parler que le langage de la froide raison, c'était avec une docilité parfaite que Julien, la regardant avec des yeux étincelants d'amour, écoutait ses explications du monde comme il va. Souvent, au milieu du récit de quelque friponnerie savante, à l'occasion d'un chemin ou d'une fourniture, l'esprit de Madame de Rênal s'égarait tout à coup jusqu'au délire. Julien avait besoin de la gronder. Elle se permettait avec lui les mêmes gestes intimes qu'avec ses enfants. C'est qu'il y avait des jours où elle avait l'illusion de l'aimer comme son enfant. Sans cesse, n'avait-elle pas à répondre à ces questions naïves sur 1000 choses simples qu'un enfant bien-né n'ignore pas à 15 ans? Un instant après, elle l'admirait comme son maître. Son génie allait jusqu'à l'effrayer. Elle croyait apercevoir plus nettement chaque jour le grand homme futur dans ce jeune abbé. Elle le voyait pape, elle le voyait premier ministre comme Richelieu. « Vivrais-je assez pour te voir dans ta gloire ?» disait-elle à Julien. « La place est faite pour un grand homme. La monarchie, la religion en ont besoin. »